recevons aujourd'hui le petit prince de l'humour hexagonal, un auteur de génie, un humoriste de légende, celui qui avec ses sketchs mythiques a fait se tordre de rire des générations de Français, un homme sensible et tendre, parfois un peu bancal, un angoissé de compétition, un hypochondriaque de légende, notre invité est monsieur Pierre Palmade.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour Pierre Palmade.
J'ai bien aimé le début.
Et, moi, et après, fin. Ça s'est gâté, c'est
non,
ça?
Non, ça va. Non, non.
Ça vous représente
ça,
bien?
Ça correspond.
Il paraît que vous avez 6 psys.
C'est pas facile à dire, ça. J'en ai usé quelques-uns. Oui.
Ah oui, mais pas en même temps.
Non, non, pas en même temps.
Ouais. Non, sinon, c'est interdit.
Sinon,
d'en
sinon
avoir
ça fait des choses contradictoires.
Non, c'est pas ça, mais il y en a un qui fait de l'hypnose, il y en a un qui fait comportementalisme, il y en a. Enfin, ils sont.
Il y a un vétérinaire.
Comment vous savez que j'avais 6 psys ?
Mais c'est vous qui l'avez dit ?
Ah, je l'ai dit.
Vous vous rappelez le psy que vous allez voir pour lui raconter que vous parlez trop ? Ouais, c'est ça.
Alors, vous venez nous parler ce midi, Pierre Palmade, de votre nouvelle pièce Le Lien, une pièce de François Bégodeau, en compagnie de Catherine Hégel, l'immense Catherine Hégel, de Marie-Christine Daned. Alors, comme toujours, vous savez très bien vous entourer de femmes. Vous préférez les actrices aux acteurs ?
J'ai été élevé qu'avec des femmes.
Tous les hommes sont morts dans votre famille ?
Oui, oui.
C'est bizarre.
Le père est mort, le grand-père est mort, l'oncle est mort. Non, 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 il n'y a que une mère, des sœurs, des grands-mères.
Vous dites que quand vous étiez petit, vous étiez le petit Jésus. Du coup.
Oui, en tout cas je connais mieux les femmes que les hommes, donc je comprends les femmes et j'adore les femmes drôles, je sais pas pourquoi, depuis tout petit. Une femme drôle, pour moi, ça m'épate.
On n'est pas beaucoup à aimer les casse-couilles non plus. Hein.
Non, mais chez les femmes, on ne recherche pas tout le temps la drôlerie, on leur explique petite, on leur explique qu'il faut être belle, éventuellement intelligente, mais
surtout belle.
On leur dit rarement, plus tard, faudrait être drôle.
Mais souvent, les femmes drôles sont casse-couilles, Pierre Palmade. Je suis pas d'accord.
C'est-à-dire qu'elles aimeraient qu'on les aime pour autre chose que pour leur humour. Nous, les hommes, on a la chance que quand on est drôle, on est sexy. Les femmes, quand elles sont drôles, elles rivalisent avec les hommes et ça agace certains hommes, des fois.
Donc, il faut faire quoi?
C'est pour ça que je trouve pas.
Voilà, t'es trop drôle.
J'ai trop drôle.
Comment il faut faire, Pierre Palmade, alors?
Eh ben, faut pas être tout le temps drôle. Ah. Il faut venir en jartel de temps en temps.
Ah. Ben oui, mais si le mec rigole quand on est en jartel.
Vous allez trop vite pour moi, je viens de me réveiller.
Alors, Le Lien, c'est une pièce de François Bégodeau, Palme d'Or à Cannes, avec entre autres Les Murs de Laurent Cantet. Et ça y est, alors vous avez passé le plafond de verre de l'humoriste, vous êtes entré dans la grande famille du théâtre.
Du théâtre.
Du théâtre.
Ouais, mais j'aimerais bien être un comédien classique, ne pas être seulement un humoriste du show business français. J'aimerais bien jouer des textes d'auteur.
C'est quand même un privilège de jouer avec une si grande comédienne que Catherine Hégel.
Ah oui, alors ça c'est
un monstre sacré.
C'est ça
théâtre.
Qui fait qu'on ne refuse pas. C'est quand...
Elle a pas eu peur de jouer avec vous?
On s'est croisés dans une loge, parce que je vais voir pratiquement tous ses spectacles. Je suis un inconditionnel de Catherine Hégel. Et elle me dit « Alors, quand c'est qu'on joue ensemble ?»
Elle fume.
Elle fume, voilà. Elle a une gouaille, comme ça. Et moi, je dis « Mais oui, d'accord, bien sûr. » Et puis, elle a trouvé cette pièce.
C'est elle qui a trouvé ce projet pour jouer avec vous.
Oui.
C'est génial.
Alors, dans cette pièce, Pierre Palmade, pièce qui n'a pas, donc le lien qui n'a pas pour sujet le bondage, comme pourrait laisser croire le titre, vous interprétez un fils qui parle à sa mère, et comme toutes les relations mère-fils, le dialogue est compliqué. Et vous avez quel rapport avec votre mère ?
Très bon, il a changé. Au début, elle était très présente dans ma vie, elle s'occupait de mes affaires, de tout, de mes sous. Et puis après, j'ai décidé d'être un peu plus autonome, et puis maintenant, ce n'est que ma maman, ce n'est plus... mon impresario.
Mais il fallait vous protéger à un moment parce que vous faisiez n'importe quoi quand même.
Oui, du don.
La balance.
Oui, j'ai... je savais que ça allait virer à un moment. Non, mais oui, j'étais un ado attardé, donc il fallait me protéger.
Jusqu'à quel âge, un adolescent, Pierre Palmade?
Jusqu'à il y a
48, 49
ans.
Là, vous avez eu 50 ans?
Oui, j'ai 50 ans.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes de 50 ans?
Aujourd'hui, il y a 10 ou 15 ans de moins qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, une femme de 50 ans, c'est comme une femme de 40 ans.
Oh là là, vous savez lui parler.
C'est vrai. Je vois mon amie Carole Bouquet qui a 60 ans. Bon, ben voilà, c'est une femme de...
Ouais, non, mais là, c'est une femme d'exception.
Non, mais vous aussi.
Mais prenons un
cas. Il l'a dit. J'ai mal entendu répéter.
Ça s'était passé dans le brouhaha. Attends, et alors, Carole Bouquet est une femme d'exception.
Comme Anne.
Oh, j'ai touché, il faut le refaire.
Les femmes sont érotiques et désirables de plus en plus tard, maintenant.
Ça redonne de l'espoir.
Voilà, vous avez
c'est
compris.
Pour qu'elle arrête de dire des vacheries sur moi.
Bien joué.
Notre invité Pierre Palmade.
Oui.
Oui.
Il est venu.
Venez nous parler de la pièce Le lien de François Bégodeau au théâtre Montparnasse avec Catherine Yégel.
Tout à fait.
Vous avez le trac qui monte?
Je commence à savoir mon texte, donc ça me tarde maintenant de... Ça commence à me tarder de savoir comment le public va réagir.
À quel
réagir.
Moment il va y avoir des rires comment...
Mais j'ai pas le trac, moi je suis plutôt un... J'ai envie d'y aller.
Vous êtes impatient, ouais.
Voilà, je suis impatient d'y aller, je suis comme un taureau qui veut rentrer dans l'arène.
Alors donc, Michel Larocque a été votre femme, puis votre ex, puis re-votre femme. Et dans une autre vie, vous l'auriez épousé, Michel Larocque?
Dans une autre vie. Ça a l'air pas gentil, mais en fait, j'ai eu des ambiguïtés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais avec Michel, ça a vraiment toujours été ma sœur. C'est que quand on est sur scène qu'on est marié et femme. Mais on l'est tellement fort que je me dis, c'est pas possible, on l'a été dans une autre vie. Parce qu'à peine, on me met sur scène avec Michel Larocque et ça devient ma femme. Par contre, dès qu'on sort de scène, il n'y a pas de... Chacun sa chambre.
21 ans, Pierre Palmade, vous jouez votre premier one-man show. 23 ans, vous écrivez une pièce pour Jacqueline Maillan. 26 ans, premier film. 28 ans, le spectacle avec Michel Larocque. Ça a été un début de carrière incroyable. Personne ne connaît un début de carrière comme ça.
Ça commençait fort, oui. Ça commençait fort, même un peu trop fort. Avec le recul, je me dis, oh là là, à mon avis, ça m'a un peu... traumatisé, j'aurais commencé plus lentement, peut-être que j'aurais été plus équilibré.
Vous avez fait aussi beaucoup de choses pour des jeunes artistes, avec notamment la troupe à Palmade. Vous avez révélé plein de nouveaux talents, Camille Cotin, Anne-Elisabeth Blateau, tout ça, c'était
oui,
un peu... Sébastien Castro, Alex Lutz,
Noémie Delattre,
Arnaud de sa mère. Bah oui, je les ai vus arriver. C'est un truc que j'aime, que j'ai, c'est flairer des gens que le public n'a pas encore vu.
Pierre Palmade, bonjour.
Est-ce que vous nous flairez un petit peu?
Il faut que je vous écoute d'abord. Mais ça va pas être facile parce que j'aime bien parler. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai adoré faire pendant 10 ans. Flairer des gens qui, pour beaucoup, commencent
c'était généreux
à
en plus que vous l'avez fait vraiment par générosité.
Ouais, mais je reçois que quand on donne, on reçoit. Et ça a été, c'est devenu des amis surtout. On a fait pendant 10 ans des sketchs et du lien.
Et vous êtes heureux de leur réussite aujourd'hui?
Bah oui, je leur avais dit, moi, parce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu nous donnes autant, pourquoi tu passes autant de temps avec nous? Je lui dis, écoutez, réussissez, faites une carrière et ça sera votre façon de me rembourser.
Vous avez souvent du mal à vous lever le matin?
Non, ça va, j'ai des horaires de plus en plus normal.
Est-ce que vous faites du sport? Non.
Un petit buzz, ça se voit, non?
Oui, bon, vous avez toujours été baraqué, même jeune,
svelte.
Non, j'étais une allumette avant. Et puis vers 40 ans, j'ai voulu faire les... J'ai senti qu'il fallait que je devienne un vieux beau. Donc j'ai commencé à faire de la gonflette un peu.
Et vous continuez?
Un petit peu.
De la salle de sport?
Vous voulez que je me...
Donc, oui, à partir de 40 ans.
Ne la tentez pas.
Je sais qu'il y a des caméras, je fais gaffe.
Mais donc vous êtes maintenant musclé?
Mais qu'est-ce...
C'est lunaire.
Correctement. Je plais à mes partenaires.
Mais j'en suis ravie.
Et
on se retrouve.
Et je les revois.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Pierre Palmade.
Oh, c'est classe. Vous êtes vraiment chez vous, hein.
J'ai le droit d'avoir une petite pharyngite.
Bah oui, bien
mais
sûr.
Mais c'est pas une pharyngite, c'est un glaire, ça.
T'aurais pu l'avoir à 1 mètre du micro, quoi, la pharyngite.
Nous a fait une huître en direct.
Non. Pierre Palmade, Léa Landau a des questions.
Pierre Palmade, alors il faut que je vous le dise, moi je vous en veux. Déjà parce que depuis votre sketch sur du scrap, je n'ai jamais plus mis de R à sucre. Moins grave paraît-il que mes copines qui mettent des dents à suce. Puis j'ai fait...
Oh, bravo. Oh, oui, oh, non.
Puis j'ai fait le sketch du colonel à ma mère à chaque fois qu'elle me réveillait à 6h du matin pour aller au lycée. Mais le pire, c'est que comme une très bonne copine, moi j'ai suivi d'une oreille très attentive votre histoire d'amour avec Michel Larocque. Et vas-y qu'ils s'aiment, puis ils se sont aimés pour ensuite te dire ils se re-aiment. Tout ça pour te laisser avec un rapide ils s'aiment depuis 20 ans. Et après, du jour au lendemain, pof, plus rien, plus de nouvelles, plus de représentations, rien. Je fais quoi, moi, maintenant? Alors bah, je me suis dit, on en est où avec Michel? J'ai été obligée d'aller voir Michel Larocque en personne pour savoir ce qu'elle pensait de vous aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, Pierre Palmade. Alors Michel Larocque, j'ai l'impression que vous ne voyez plus beaucoup Pierre Palmade ces derniers temps. Il vous manque?
Oh non, pas du tout. Non, au contraire.
Mais vous pensez quoi, Michel Larocque, du fait que Pierre Palmade joue dans une pièce sans vous?
C'est dommage.
Bah ouais, vous avez une idée de pourquoi il fait ça?
C'est une manière de se faire de l'argent de poche.
Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il paraît qu'après 20 ans, il vous trouvait agaçante, dont la rupture serait la cause d'ailleurs.
Je suis comme je suis, et donc ce n'est pas une responsabilité.
D'accord, mais vous reconnaissez être un peu chiante ou pas quand même?
Oui.
Vous pensez lui avoir apporté quoi à Pierre Palmade, Michel Larocque?
Moi j'adore transformer les choses que je trouve un petit peu moyennes en belles choses.
D'accord. Il vous a dit quoi, Pierre Palmade, la dernière fois qu'il vous a vu, Michel Larocque?
J'aime bien être seule.
Ah oui, il aime bien être seule. Qu'est-ce qui vous manque le plus chez Pierre Palmade, Michel Larocque?
Je lui posais des questions sur tout le temps.
C'est vrai ça? Et là, ça vous fait quoi de parler de lui?
C'est très agréable.
Et en vrai, vous l'aimez toujours?
Oui.
Et vous, Pierre Palmade?
Ah, c'est bien fait, bravo.
Merci. À quand la prochaine collaboration avec Michel? Moi, j'attends avec impatience. Je suis tellement fan.
C'est difficile d'avoir de nouvelles idées pour ce couple qui a quand même vécu pas mal de choses.
Ouais.
Et puis c'était une époque. Il faudrait vraiment trouver une autre idée, transcender ce couple pour qu'il aille encore plus loin ou je sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Bon, en tout cas, ça manque.
C'est gentil. Je lui dirai. Enfin, vous la connaissez, manifestement.
Ouais, c'est vrai, tout à fait.
Pierre Palmade, vous avez le train.
Qui me parle? Ah.
C'est la rhinopharyngite.
Pierre Palmade, vous avez le trac là de démarrer ce spectacle?
Écoutez, Catherine me dit pour l'instant que ça va, elle est contente de moi. Donc, j'ai
c'est
déjà...
ça le principal?
Oui, c'est la critique qui compte le plus pour moi, c'est celle de Catherine.
Que vous disent les gens dans la rue, Pierre Palmade, quand ils vous croisent?
Oh, je te connais. Ils me disent... Il y en a qui me disent merci, nous faire rire. Il y en a qui me disent oh, vous avez pris un coup de vieux. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui avait dit oh, bah, tu as pris un coup de vieux. Oh là là, non. Et il y en a d'autres qui me. Non, j'ai plutôt des sourires. Des sourires, et c'est très agréable. C'est pour ça qu'il y en a qui se plaignent de leur notoriété. Moi, j'adore être...
Vous faites des selfies à toute heure du jour et de la nuit?
Non, c'est moins hystérique que ça, ma notoriété, mais j'aime beaucoup les sourires comme ça, qui sont comme des caresses.
Les sourires de connivence.
Exactement. Je vous ai reconnu et je vous aime bien. Quand je vois ça dans l'œil, ça me plaît.
Bah, nous aussi, on vous aime bien, Pierre Palmade.
Merci.
Benna, justement, a fait votre portrait, Pierre Palmade.
Oui. Pierre Palmade, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Et c'est sincère, cette fois, je précise, parce que j'avais aussi commencé comme ça avec Christian Estrosi. Et que bon, là, je suis vraiment ravi. Hein, pour un jeune comique, rencontrer Monsieur Palmade, c'est comme si un jeune délinquant pouvait rencontrer les Balkany. C'est un modèle, une vraie référence. C'est presque intimidant, même. Je suis une sorte de Yann Moix devant une femme de 50 ans. Je me sens super con. Pierre Palmade, oui, je suis un jeune humoriste encore moins connu qu'un secrétaire d'État du gouvernement Macron. À un niveau notoriété, je me situe entre personne et c'est qui. Et quand on n'est pas connu, on est souvent comparé avec une star de la discipline. Et depuis que je monte seul sur scène, j'entends systématiquement le même grand nom revenir à la sortie de mes spectacles dans la bouche des spectateurs, Pierre Palmade. Certains professionnels ont même déjà osé me qualifier de fils spirituel de Pierre Palmade. Une comparaison récurrente, flatteuse et troublante qui s'ajoute, je ne vous le cache pas, aux doutes concernant l'identité de mon vrai père. Ma mère m'ayant longtemps fait croire qu'il s'agissait de Johnny Hallyday, une croyance récemment démenti par Laetitia, un notaire et trois avocats, et confirmé encore hier par mon banquier. Mais si c'est pas lui, mon père, qui dans ce grand pays a pu me léguer le chromosome du talent et profiter
à l'autre.
Et profiter de la cuisse légère de maman. Une question qui nous ramène à ce midi. En écrivant votre portrait, Pierre Palmade, et en découvrant l'homme par-delà l'artiste que j'admire, tout m'a subitement semblé très clair. C'est l'évidence même, Pierre Palmade, ou plutôt devrais-je dire papa. Mais oui, souvenez-vous, on est en 1987. Vous avez 19 ans et nous sommes à la nuit du théâtre de Bordeaux. Vous venez de vous faire repérer, vous voulez fêter ça. C'est le premier jour du reste de votre vie. Ce soir, il ne le sait pas encore, le petit Pierre va devenir le grand Palmade. La soirée est arrosée, vous rentrez ce soir-là avec un jeune homme séduisant qui ressemble à s'y méprendre à Demis Roussos. Une soirée vraiment bien arrosée parce que dès le lendemain, vous réalisez que le sosie de Demis Roussos, c'est en réalité une femme. Et cette femme, c'est ma mère. 9 mois plus tard, à Paris, je pousse mon premier cri, il s'appellera Benache et vous remarquerez à Benache, hein, si on change seulement 7 lettres, ça fait Palmade. Hasard, coïncidence, je ne pense pas. Ça expliquerait tellement de choses, Pierre. La ressemblance physique déjà, la pommette saillante, les yeux ronds et la mèche folle. Le tout sur un corps sculpté par une pratique intensive du sport. Et puis on peut comparer nos carrières respectives, hein. Je marche très clairement dans vos pas. À 21 ans, vous rencontrez le succès avec votre premier spectacle. À 23 ans, vous écrivez pièces montées pour Liman, Jacqueline Maillan. À 28 ans, vous montez Il s'aime avec Michel Rock. Alors que moi, regardez, j'ai 30 ans et j'ai déjà fait Oui, bon bah ça va, Arthur Junior, il a jamais joué dans Les Bronzés. Ça n'empêche pas d'être le fils de Gérard. Tout ça pour vous dire, Pierre Palmade, à l'occasion de votre venue ce midi dans l'émission entre vous et moi, qu'il soit génétique ou simplement artistique, c'est évident, il y a un lien. Merci de m'avoir écouté.
Alors, une réaction, Pierre Palmade ?
C'est vrai, on vous parle de moins souvent.
Systématiquement.
Ça vous fait quoi d'être papa d'un coup ?
Eh ben, c'est surprenant, je ne sais pas. Je reviens avec plein de cadeaux.
On en reparlera en privé.
C'était une rencontre majeure pour vous, Muriel Robin, Pierre Palmade ?
Oui, c'est la plus grande rencontre de ma vie. Ben, ça a tout changé, être le co-auteur de Muriel Robin qui devenait tout d'un coup une femme comique incontournable dans les années 90, ça m'a... C'est elle qui m'a fait rencontrer Jacqueline Maillan, d'ailleurs. Puisque Muriel Robin était la nouvelle Maillan. Donc Jacqueline Maillan a dit « Allô, c'est l'ancienne Jacqueline Maillan. Je vais venir vous voir. » Et non, ça a été incroyable d'être dans les jupes de Muriel. C'est incroyable.
Elle vous suit quand vous faites des pièces? Elle vient vous voir?
Oui. Bon, on est liés. De toute façon, vivre en commun les succès qu'on a eus, c'est-à-dire les succès des sketchs de Muriel et les succès des duos avec Michel Larocque, ça vous lie pour la vie, quoi. C'est pas un succès artistique, c'est quelque chose de très intime. Hein. Ça fait ce que j'ai vécu sur scène avec Michel Larocque, c'est de l'intimité. C'est pas un boulot qu'on fait et qu'on réussit. C'est un truc très intime.
Très profond.
Très profond, oui. Le succès, les réussites qu'on a eues avec Muriel Robin, c'est comme si on avait élevé des beaux enfants.
Alors vous avez écrit beaucoup...
Quand c'est joli, ce que je dis, vous pouvez le dire. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais c'est joli, vous voulez... qu'est-ce que je dois dire ?
Non, c'est mais joli. C'est vraiment surtout des sketchs quoi, qui ne se démoderont jamais. On ne se lasse pas, ni du Scrab, ni de l'Addition, ni du Colonel, ni... Mais c'est fou.
Le fait d'être intemporel m'obsède un petit peu. J'ai toujours très peur de parler d'actualité, parce que j'ai peur que dans 10 ans, on ne sache plus de quoi le sketch parle.
Justement, Pierre Palmade, vous avez écrit multitude de sketchs, vous avez écrit plein de pièces de théâtre aussi.
Quelques-unes, oui.
Bah quand même, ouais. Pierre Richard, avec pour Muriel Robin, Lynn Renault, tout qui ont pour récemment pour Victoria Abril, Paprika, qui a eu beaucoup de succès. Ouais. Pour vous aussi, le comique, le fils du comique, donc vous avez vraiment maintenant une œuvre théâtrale. Et le cinéma, alors ?
Le cinéma, ça ne me fait pas... rêver. Enfin, j'adore vous regarder un film, mais quand je vois un film, je me dis pas « Oh là là, j'aimerais en faire un. Oh là là, j'aimerais jouer dedans. »
Il n'y a aucun rôle qui vous a tenté ?
Si, des rôles. Oh, j'adorerais, j'aime bien jouer les méchants. J'adorerais jouer Fantomas. Des méchants, mais bien habillés.
Avec du style.
Avec une cape, enfin, des trucs comme ça.
Ah ouais, mais c'est particulier, Fantomas, c'est une autre époque.
Oui, ben, je suis d'une autre époque.
Ah bon ?
Fantomas, c'était quand même, j'étais petit. Pour dire que le cinéma, je ne me vois pas réaliser, je ne me vois pas jouer dedans, et puis il faut se lever tôt. Non, on joue 3 minutes par jour. Quand je vois du théâtre, je comprends tout, j'ai envie d'en faire.
C'est immédiat aussi.
C'est immédiat. Puis j'aime bien la contrainte du théâtre. Au théâtre, vous avez un seul décor et vous êtes obligé de faire dialoguer des gens dans un seul décor. Au cinéma, ça peut partir dans tous les sens. Il y a les flashbacks, on peut être en Chine, on peut être au Japon. On peut aller n'importe où. Je sais pas, il y a trop de liberté au cinéma. Bon, en même temps, hein, si j'en fais...
Fantomas, alors.
quand
l'appel est lancé.
En tout cas, je verrais bien Muriel Robin dans la fille de l'inspecteur Juve. J'adorerais qu'elle soit la fille de Funès, qu'elle reprenne le flambeau.
Ça vous pourriez faire un remake tous les deux alors.
Oui, oui, oui.
Elle a été révélée lors de la saison 10 de La Nouvelle Star. On la surnomme la Diva du Soul.
De la Soul.
La Soul.
Oh, pardon, ouais, on l'a dit.
Diva, ouais, la Diva du Soul, c'est moi, vendredi soir.
La Diva de la Soul. Elle vient nous présenter l'édition de luxe de son premier album, Chapter One, version enrichie de 6 nouveaux titres. C'est donc son deuxième premier album. Tout le monde debout pour accueillir Kimber Rose.
Merci. Bonjour.
Alors, il faut que je vous appelle Kim, parce que vous vous appelez Kim, et le groupe s'appelle Kimber Rose, et vous êtes plusieurs dans le groupe.
Exactement, c'est ça.
J'ai tout compris.
Ouais, magnifique.
Quel succès, Kimber Rose, vous attendiez à ça ?
Non, pas du tout.
Il y a 2 ans, vous étiez en école d'infirmière,
ouais.
Et alors, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez mis une chanson sur YouTube ?
C'est ça, en fait, on s'est filmé avec un de nos titres, et on a été contacté par Fabrice Nataf, qui est maintenant mon éditeur, producteur, manager, nounou, tata, tout.
Ouais. Il est génial, Fabrice.
Et donc, il a flashé sur vous.
Ouais, exactement. Il nous a contactés et puis je l'ai rencontré. Et puis, ça l'a fait tout de suite. En fait, on a commencé à bosser ensemble tout de suite. On a enregistré un EP de 4 titres.
C'est quoi un EP parce que...
Mais c'est un mini-album,
en fait.
C'est
comme
les singles d'avant, mais en plus.
Excuse-moi. Voilà.
C'est ça, exactement.
Un EP, je sais
pas ce que c'est. Le single, c'est un titre. Le EP, c'est 4 à 6 titres. Puis ouais. Le LP, c'est l'album.
Exactement, c'est ça.
Ouais. Ah, ok, voilà. C'était faut des nouveaux mots, je connais pas.
Oh, ça existe. Ouais, c'est nouveau, ça existe depuis 50 ans.
Donc, vous avez enregistré un EP. Oui, oui. Alors, il paraît qu'il y a une chanson aussi que vous avez écrite en pensant en rupture, I'm Sorry, c'est ça ?
C'est ça, complètement, ouais. C'est une chanson... que j'ai écrite à une période de ma vie où justement je voulais m'en aller d'une relation et que je n'y arrivais pas. Et ça m'a permis de le faire en fait en musique.
Vous lui avez envoyé la
chanson.
C'est mieux qu'un texto.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est
ouais.
Plus élégant.
C'est plus fort chic. Aussi, ouais. Peut-être. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien cette chanson.
Et lui,
un peu moins, j'imagine.
Je me suis jamais fait larguer en chanson. Moi.
Non, moi que par texto.
C'est vrai.
C'est pas mieux.
Moi, bah, toi, déjà largué des filles par texto.
Évidemment, mais je le regrette et ça m'ennuie que ça vous ait.
Quelle menteur.
Moi, une fois, j'ai eu un post-it sur le frigo. C'est marqué désolé et rien d'autre.
Ouais, I'm sorry, c'est pareil.
Voilà.
Oh là là, oui. C'est dur.
Mais et, vous, et vous, Kim, on vous largue pas, vous êtes...
Ben, je suis comme tout le monde, bien sûr que si. Je pense que ça m'arrivera, ou je ne sais pas, mais en tout cas...
Ça vous est pas encore arrivé à 28 ans ?
Ben non, parce qu'en fait, moi, j'ai une vie un peu... Enfin, je fais tellement de musique que j'ai pas vraiment beaucoup une vie amoureuse très...
Est-ce que ce serait pas le moment de prendre une pause, Kim ?
Vous n'êtes pas intéressé par un jeune humoriste en plein devenir ? Qui a du mal à se stabiliser parce qu'il n'a pas rencontré une femme.
Justement, le boulot. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu de distance avec nos métiers.
Bah, j'ai pas trop envie de prendre de distance avec mon métier actuellement. Là, je suis en plein dedans et c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer et qui me donne beaucoup de force aussi au quotidien.
On y arrivera, Benache.
Vous avez commencé à chanter vers quel âge, Kimber ?
Je me rappelle pas, en fait. J'ai toujours chanté. Toujours.
Ouais, vous n'avez jamais pris de cours de chant ?
Non, jamais.
Et il paraît que quand votre mère a entendu votre voix, elle a dit « mais je ne savais pas que tu chantais ».
Oui, complètement, parce qu'en fait, je chantais cachée dans ma chambre. Bon, elle entendait un petit peu, mais des espèces de murmures de loin. Et en fait, ma mère m'a vraiment entendu chanter à La Cigale il y a quelques mois maintenant, où elle est venue me voir. Et c'est la première fois qu'elle me voyait chanter en live.
Waouh !
Ouais.
Elle a dû être complètement bluffée.
Ah, mais elle était extrêmement émue, et moi aussi, du coup. Et c'était un grand moment, ouais.
Je peux dire que sa mère, elle lui parle meilleur maintenant.
Ouais, c'est ça.
Et vous avez eu des épreuves aussi, vos parents qui ont divorcé quand vous aviez 2 ans, et puis une double culture, votre maman ghanéenne, votre papa anglais.
Oui, exactement, oui.
Et puis à 20 ans, vous avez perdu votre papa brutalement. Et là, vous avez beaucoup de mal à vous en remettre, vous avez dit ?
Ah, totalement, oui. J'ai l'impression de commencer à m'en remettre seulement maintenant.
8 ans après ?
8 ans après, ouais. Et puis je pense que cet album m'a beaucoup aidée aussi, parce que je lui ai beaucoup écrit dans mes chansons.
Et c'est ça qui touche les gens aussi.
Peut-être.
Cette émotion, parce que vous dites que c'est très important pour vous. C'est pas la beauté de la voix, c'est l'émotion que vous transmettez. C'est ça l'essentiel pour vous.
Ouais.
Vous n'aimez pas les voix trop propres. Vous aimez quand c'est un peu rocailleux, quand c'est...
J'aime surtout quand c'est vrai et quand il n'y a pas de calcul.
Eh ben on va écouter un extrait de Smile. Ça, c'est une reprise, par contre.
Ouais, c'est une reprise d'une magnifique chanson de Chaplin à l'origine, qui a été reprise aussi par Nat King Cole. Enfin, magnifique chanson, vraiment. Grand standard.
Et chanter par vous, c'est très très joli. On écoute.
Merci.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you find that life is still worthwhile. If you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Capable de transmettre autant d'émotions qui me rosent comme ça, c'est en vous ou...
Mais on s'en rend pas vraiment compte en tout cas.
Bah si, on a tous les larmes aux yeux. Là.
Ah oui.
Non, moi ça va moi. Il faut un bonhomme quand même dans l'histoire.
Non, c'est dur de vraiment se rendre compte de l'émotion qu'on donne. Enfin, on s'en rend compte en tout cas par exemple en live quand on chante et qu'on voit les visages des gens qui sont
avec
là
les larmes aux yeux.
Ouais, ça arrive. Ça arrive.
Il paraît qu'à l'école, on vous demandait de chanter Anastasia.
Ah ouais, le dessin animé. Oui, c'est vrai. Comment vous savez ça?
C'est vous qui l'avez dit.
Je croyais la chanteuse, qu'elle est la chanteuse Anastasia aussi, comme vous avez
dit. Ah mais j'ai écouté aussi d'ailleurs.
I'm out of love.
Non, ouais, c'est ça. Non, s'il te plaît. Non.
Plus jamais ça.
Non,
enfin.
Tu n'as pas le droit de chanter, surtout avec une grande chanteuse.
Enfin. Justement.
Et chanter, montrez-lui la différence.
I'm out of love, set me free. Et après, je me rappelle pas du tout des paroles.
Ah, alors déjà... que moi, oui,
désolée, Anastasia.
Vous, sans les paroles, c'est mieux que Léa avec. Hein, donc, ça va.
Alors, vous dites que vous avez mis beaucoup de temps à avoir vraiment confiance en vous.
Ah oui, en tant que chanteuse, ça a pris beaucoup de temps. Comme c'était un peu aussi un jardin secret, et j'en parlais pas vraiment à ma
famille.
Oui,
c'était en cachette que vous faisiez ça.
C'était un peu en cachette. Bon, j'avais quand même des confidents à la maison, mes frères qui sont dans la musique aussi, enfin qui aiment beaucoup la musique aussi. Mais c'est vrai que je sais pas d'où ça vient. Ça m'a pris du temps. En tout cas, il a fallu que je grandisse pour avoir confiance en moi.
Et maintenant, vous êtes prête.
Ouais, enfin, ouais, ça y est.
Et à l'Olympia, le 7 février.
Exactement. Wow.
Kimber Rose éclose.
Wow. D'ailleurs, vous avez choisi ce pseudo de groupe en disant Kim ose, c'est ça? C'était
exactement
ça l'idée. C'était l'histoire de oser.
Ouais.
Et quelqu'un qui va oser faire une chronique devant vous, c'est Jérémy
oui.
Lorca.
Alors, tout avait bien commencé, les amis. Ma période préférée de l'année avait débuté, les soldes. Et cette année, j'ai encore fait des supers affaires. J'ai acheté un sapin à 10 euros, des boules, des guirlandes. Et d'ailleurs, je voulais vous inviter tous les 4, tous les 5, pour lancer un nouveau concept de Noël, le Noël des crevards. On aurait pu s'offrir des cadeaux en solde, ça aurait été super sympa, parce qu'après tout, c'est vrai, pourquoi se ruiner le 24 alors qu'on peut s'en sortir pour moitié moins 2 semaines plus tard. Bref, j'étais hyper content de mon idée, mais super chargé, puisque j'avais un sapin et des guirlandes. Mais comme je suis un warrior, je vais quand même dans un magasin de fringues. Là, évidemment, sur les 4 trucs, j'achète 3 trucs non soldés. À croire que les bonnes affaires, c'est jamais pour moi. En revanche, les mauvais coups, ça, je suis abonné. D'ailleurs, j'en ai encore eu la preuve, puisque je vais au distributeur retirer 20 euros. J'introduis ma carte, je galère un peu, je devais porter le sapin, les guirlandes, le sac de fringues, et là à ma gauche, il y a un gamin de 15 ans qui faisait la manche avec une pancarte devant lui, qui se lève, il pose sa main sur mon bras et il me demande 1 euro. Je lui dis, enlève ta main tout de suite s'il te plaît. Et je tourne la tête, il y en a un deuxième qui apparaît à ma droite et qui regarde en direction de ma carte bleue. Je lui dis, toi n'y pense même pas. Et là, celui de gauche met son carton sur l'écran du distributeur. Et d'un seul coup, je me dis 2 trucs. Pourquoi il fait ça? C'est très bizarre. Et deuxième chose, je suis hyper vexé parce qu'il y avait une vieille dame à côté de moi qui retirait de l'argent et ils ont décidé de braquer moi. Ils se sont dit, entre elle et lui, c'est lui le moins impressionnant. C'est humiliant quand même. Je me dis, bon, ils ont 15 ans, je vais pouvoir les gérer, mais je crois qu'ils vont me piquer les fringues. Et ça m'embêtait plus que 20 euros parce que je me suis dit, au pire, je me ferais rembourser l'argent par l'assurance. Donc, par acquis de conscience, je crie, au voleur!
Ah bah même eux ils m'ont regardé bizarrement. Direct j'entends quelqu'un qui s'approche pour m'aider et d'un seul coup celui de gauche passe juste un doigt sous le carton. Je le pousse et je vais vous dire, j'ai pris sur moi parce que déjà j'aime pas la violence et en plus
Plus il était quand même un peu baraqué.
Et en plus ils avaient pas l'air très propres et vous savez je suis un peu maniaque. Alors on est entre nous, on se parle hein. J'espère pas vous choquer Kimber Rose, mais vous savez parfois je donne l'argent à des SDF par gentillesse et moi ma grande crainte c'est qu'ils me serrent la main.
Parce que quand t'es hypochondriaque,
t'as pas de gel désinfectant, t'es en galère pendant 15 minutes quand même. Bref, je pousse le gamin et là, le cauchemar, les amis. Je vois 800 euros vont être distribués. En fait, apparemment, je ne savais pas, mais il y a une touche étoile sur les distributeurs et quand t'appuies dessus, ça retire ton montant maximum autorisé. Ah, je peux vous assurer que j'étais le premier surpris, je savais même pas que j'avais 800 euros sur mon compte. J'avais envie de sauter de joie. Dans ce cas-là, faut faire des choix. Je me dis, ok, tant pis pour les fringues, gère l'alias. L'argent sort, je les prends tout de suite, le petit me prend le bras, à la guerre comme à la guerre, je lui mets un coup de sapin. Je sens que derrière, il y a plein de gens qui se sont agglutinés pour m'aider. Je précise que c'était au beau milieu d'une énorme place à 16h dans Paris, donc les petits n'ont pas peur. Hein. Je gère l'argent, je gère ma carte bleue, je gère les fringues. Là, le petit sort un pull de mon sac, le seul qui était soldé en plus. Alors là, je pète un câble. J'ai lu dans un magazine qu'il fallait cracher pour qu'il soit dégoûté, qu'il s'essuie, qu'il lâche objet. Ah bah, j'étais moi-même dégoûté de le faire, mais à la guerre comme à la guerre, je crache. Je donne un coup de sapin, je lui dis, petit con, tu crois vraiment que je vais lâcher un pull à moins 50? Ah, j'étais vénère. Je me dis, ça va me coûter 8 euros de pressing cette histoire, j'en suis malade. Et là, vous savez, on dit souvent que dans ce genre de situation, personne ne vous aide. Et bah là, il y avait au moins 20 personnes qui étaient là pour m'aider. Je me suis dit, mais ils m'ont reconnu, c'est pas possible. Moi, j'ai récupéré mes fringues, mon argent que j'ai mis direct dans ma poche, mon sapin, tout le monde les matières en disant, monsieur, vous avez tout, j'avais tout. Là, les petits arrivent à se casser en courant, je suis fier de moi, en mode ninja Lorca. Je me dis, ils doivent bien avoir les boules. Et là, je réalise que j'ai plus mes boules. Faut être débile quand même, hein. Ils m'ont volé des boules de Noël, mais ça va pas la tête. Non, ils voulaient pas repartir les mains vides, c'était ça le principe. Bref, moralité. Ça fait plus de 20 ans que je vis à Paris, je fais même plus attention quand je tire l'argent, mais où que vous soyez, restez vigilants au distributeur. Faites gaffe à la touche étoile qui est en bas à droite ou à gauche, je sais plus. Et surtout, quand bien même, il y a des gens qui sont géniaux dans la vie, qui peuvent vous aider. Alors vive les soldes et vive les pulls à moins 50. D'ailleurs, c'est pour ce pull que je me suis battu, j'ai eu raison.
Non, non,
ok, super, merci beaucoup. Non.
Kimber Rose, vous avez eu le temps de faire les soldes ou vous faites
non, pas encore. Pas encore, mais je compte y aller très vite, oui.
C'est vrai, vous aimez bien les vêtements, tout ça?
Bien sûr, et surtout pour la scène.
Ouais. Ah ouais. Vous êtes comment sur scène, Kimber Rose?
Habillée.
Ouais, c'est un bon c'est début.
À l'Olympia, vous serez habillée comment?
Ah ah, non, ça c'est un secret. Ouais. Ah oui, vraiment, j'y tiens. D'ailleurs, j'ai pas encore trouvé ma tenue parce que je me mets tellement la pression.
Donc c'est pas un secret en fait, tu l'as pas. Quoi.
Non, mais je sais ce que je veux. D'accord. J'ai une idée précise.
C'est
de
votre premier Olympia, qu'est-ce que ça fait sur son premier Olympia à 28 ans? C'est beaucoup d'émotions, j'imagine.
Ouais, c'est un truc de fou. Je sais pas quoi dire d'autre.
Je fais les premières parties si vous voulez.
J'ai bien écouté une démo pour
le bon galère.
Tant qu'elle ne chante pas, ça va. Fait les beaux jours de l'écho des savanes, auteur et poète, ce Boris Vian du dessin est devenu romancier après un bref passage dans l'univers de la télé. On le doit aujourd'hui 18 romans dont le célèbre Magasin des suicides, traduit en 19 langues et qui a été adapté par Patrice Lecomte au cinéma. Ce boulimique d'écriture, d'absurde et de poésie vient nous présenter son nouveau livre, Gare à loup. L'écrivain virtuose Jean Tellet est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean Tellet.
Et bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Bien content d'être là, moi.
C'est vrai?
Ben ouais.
Vous êtes très très grand, hein?
Ouais. 1m96, au Moyen-Âge, avant le système métrique, on appelait ça une toise.
Oh là.
D'où l'expression toiser les gens.
Et vous êtes grand depuis que vous êtes tout petit?
Eh ben oui. Eh ben ouais. Ben. Et j'ai été plus beau bébé de France.
Ah bon?
Ouais. J'étais sur le calendrier des postes.
En quelle année?
Sur le calendrier de, je crois, de 55.
Alors c'est votre année de naissance.
Et moi, je suis né en 53, mais voilà. J'avais des petites taches de rousseur, des cubes comme ça, et puis voilà.
Et vous pesiez combien à la naissance?
Je crois 3 kilos,
normal,
5,
quoi.
Un truc normal.
Et vos parents sont grands ou c'est
non,
que
non,
vous?
Non, ma mère est petite, mon père n'était pas très grand, mais un copain de mon père était...
Non mais c'est vrai, vous pensez ça?
Non,
vous dites ça pour rigoler.
Mais oui, quand je dis ça et que ma mère entend ça, d'ailleurs elle écoute peut-être.
Elle vous engueule?
Et elle m'engueule, oui. elle n'a pas le sens de l'humour, contrairement à moi.
Et vous, donc vous étiez, et ça, ça a posé un problème d'être si grand quand même ?
Oui. À 14 ans, je faisais cette taille-là. Et je me disais, mais c'est pas possible, je vais finir à la foire du trône. Et ma mère m'avait emmené voir un médecin pour voir l'état des cartilages, notamment au poignet. Puis le médecin a dit, non, ça s'arrêtera là. Et c'était embêtant parce qu'à 13-14 ans, moi, je faisais des bêtises de môme à l'école. Mais sauf que je faisais presque deux têtes de plus que les profs, alors je me faisais toujours gauler.
Ah bon, vous repérez tout de suite.
Ouais, ben ouais, forcément.
Vous
ouais.
avez un côté de toute façon très atypique, Jean Tellet. Vous n'êtes pas dans la norme.
Je me rends pas bien compte.
Non, c'est pas une critique.
Non,
mais...
non, je sais, ouais, mais j'en sais rien. Moi, je fais, j'ai l'impression d'être comme un pommier, quoi. Un pommier, il est fait comme ça. Il fait des pommes. Il se demande pas s'il va faire du raisin ou s'il va faire des bananes. Moi, je suis comme ça, et puis j'ai de la chance. J'ai l'impression que les gens m'acceptent plutôt bien, et ce qui est bien agréable.
Mais, vous êtes très simple pour quelqu'un qui a vendu autant de livres.
Bah ouais, mais j'ai...
Vous n'avez pas un côté écrivain prétentieux ?
Non, mais j'en connais pas beaucoup des écrivains, et puis je lis presque jamais de romans, moi. Alors, donc, du coup...
Vous préférez les ouvrages historiques ?
Ouais. J'aime bien lire pour apprendre, parce que comme j'ai pas fait beaucoup d'études... Et j'en profite maintenant pour essayer.
Donc là, vous revenez
trucs.
À la fiction avec ce livre Gare à loup. Vous dites que ça vous détend des romans historiques parce que quand vous faites une erreur dans un roman historique, tout le monde vous tombe dessus.
Ah ouais. Et puis c'est un gros boulot et tout. Et tandis qu'un livre comme ça, on peut se lâcher. En plus, Gare à loup, ça se passe dans on ne sait pas quel pays.
Et dans le futur.
On ne sait pas quelle époque. Et on ne sait pas quelle époque. Donc je peux tout faire. Et ça, c'est vraiment agréable de pouvoir se lâcher. Et ce que j'espère, c'est avec ce livre, c'est que les gens les prennent par la main et leur raconter une histoire qui les embarque. Et leur
Alors l'histoire, c'est une petite fille qui a le pouvoir de faire du mal à tous les gens qu'elle veut.
Exactement. Dès qu'à voix haute, elle souhaite du mal à quelqu'un, ça se produit immédiatement. Et il y a un gardien de la paix qui repère ça dans la rue, qui l'entend souhaiter un truc à des gens qui font des trucs pas bien, et paf, il voit que ça arrive.
Donc il la signale au gouvernement, et donc du coup on la kidnappe en fait pour...
Exactement, l'État la kidnappe et décide de l'utiliser comme une arme totale contre tous les autres pays qui...
Par contre elle ne peut pas décider de ce qu'elle veut en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la téléguider, c'est-à-dire
et
que...
Non. Et ça c'est le problème, parce que elle a des souhaits de gamine de 12 ans et les trois chefs de guerre qui doivent s'occuper d'elle nuit et jour et lui transmettre les directives de la présidence et ils se plaignent de ça.
C'est qui cette petite fille sur la couverture ?
C'est une gamine que j'avais rencontrée en province, mais maintenant elle a 18 ou 19 ans et je lui disais que je cherchais une photo je voulais une photo comme une photo de classe, comme on a tous eu, comme vous avez dû avoir aussi à l'école et tout, et puis
parce que ça fait peur en fait.
et vous... Ouais, surtout le dos. Ouais, la couverture, le. Ouais, ouais. C'est un piège, justement.
Ah ouais, ça, c'est vous qui... Ça fait très très peur.
Et j'ai fait exprès. Je me dis, d'habitude, les gens disent toujours que mes couvertures ont un pas de côté et tout. Et là, j'avais envie que la couverture paraisse. Que les gens puissent se dire, oh bah dis donc, ce livre de Tellet, la couverture est vraiment soft. Mais si jamais on retourne le livre, on fait ça. C'est un livre de Tellet.
Et d'ailleurs, vous dites que vous ne pouvez pas commencer à écrire un livre tant que vous n'avez pas la couverture.
Exactement, ouais. Et si je n'ai pas le titre et pas la couverture, le...
Ça pourrait faire un film d'ailleurs, ce livre.
Ouais, on me dit ça, ouais.
Ah ouais, un film d'horreur.
Ah bah là, c'est l'exorciste. Ouais.
Vous dites que l'idée de ce livre vous est venue lors de la promo du dernier livre. Vous êtes énervé contre un contrôleur ?
Mais oui, j'étais dans une librairie, je ne sais plus dans quelle ville de province. J'étais en train de dédicacer, puis à un moment, le libraire vient me voir et me dit « Jean, votre train est à 18h30, mais vous avez vu tous les gens qui attendent encore ?» J'ai dit « Bah oui, mais moi, il faut que je rentre à Paris, surtout que demain, je vais dans une autre ville et tout. » Et il me dit « Mais il y a un autre train à 20h. » Je dis « Oh bon, s'il y a un autre train à 20h, je vais prendre celui-là. » Et c'est ce que je fais. Et puis je monte dans le compartiment. Je me rappelle bien, j'étais en début de compartiment. Et au bout d'un moment, un contrôleur arrive et me demande mon billet. Je lui donne mon billet. Il n'y a pas de problème et tout. Puis il continue à demander les billets des autres passagers. Et puis, tout d'un coup, je voulais lui demander un renseignement pour le lendemain, le voyage que j'allais faire le lendemain. Et je le rappelle, je lui fais « Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous poser une question ?» Il revient me voir, je lui pose ma question. Il me regarde, il me dit « Je peux voir votre billet ?» J'ai dit « Mais je viens de vous le faire voir. » Il dit « Bah oui, bah faites-le voir encore. » Bon, je ressors le billet, il le regarde, il fait « Vous n'êtes pas dans le bon train, vous auriez dû être dans le train 18h30. » Je fais « Effectivement, et alors ?» Il dit « Bah, je vais vous mettre une amende. » Je dis, vous êtes gonflé. Je vous fais voir le billet, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle pour un renseignement dont j'ai toujours pas la réponse. Et vous allez me coller une amende. Il me dit, oui. Et je lui dis, et si je ne veux pas payer, il me dit, bah, c'est simple, j'appelle la police, à la prochaine gare, ils viennent vous chercher. Bon, je sors la carte, tout, puis je paye. Et là, il me prend un truc qui ne m'était jamais arrivé, je n'ai jamais dit ça à personne. Au moment où il va pour partir, je lui dis, monsieur. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous souhaite un grand malheur pour très bientôt.
Oh là là,
j'adore.
Et moi, je dis, c'était une sorte de blague, mais lui, il avait, oh ben c'est gentil. Puis
surtout
j'ai senti
pour mesurer 1m96 quand même.
Mais j'ai senti que ça l'avait vraiment fissuré. Et ce qui était drôle, c'est que quand il est parti, au lieu d'aller dans le sens où il demandait billets, il est reparti dans l'autre sens et je ne l'ai plus jamais revu. Et puis, des gens autour de moi rigolaient. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'aimerais bien raconter l'histoire d'un personnage, une petite fille par exemple, qui aurait ce pouvoir-là. Et puis dans le train, tout d'un coup, je me suis mis à imaginer des trucs. Elle habiterait, ça se passerait dans un temps futuriste, elle habiterait dans un...
Il faut lui dire merci à ce contrôleur.
Mais oui, exactement.
Maintenant, il est mort là. Donc, il est mort.
Et ben voilà, je lui aurais bien remercié.
En plus, on vous imagine assez bienveillant, Jean-Tenet.
Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis effectivement, là, moi qui vais repartir en promo et tout, je vais peut-être le retrouver et je le reconnaîtrai. Et j'espère que cette fois-ci, il ne va pas me réclamer des droits d'auteur.
Art graphique, de la BD, donc pour vous, vous avez toujours un côté potache. Il y a à la fois une écriture truculente, mais il y a toujours beaucoup d'humour aussi dans ce que vous faites, Jean-Tenet.
Il faut rire de tout, et surtout de ce qui n'est pas drôle. Et souvent, je dis, moi, par exemple, que Jeanne d'Arc, quand elle était sur son bûcher, une fois qu'elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes, à part se marrer, qu'est-ce qu'elle pouvait foutre, quoi. Et c'est un truc de survie, le rire, puis vous en savez quelque chose.
Alors, dans votre livre, vous parlez de la... Il n'y a pas la marque Apple, mais il y a son équivalent dans le livre, c'est pire, la marque à la poire épluché par un couteau, qui en est à son modèle 528 de smartphone.
Ouais, exactement.
Et donc la petite fille se venge et tous les appareils, il menace que tous les appareils tombent en panne.
Parce que la société pire dans mon roman, non seulement ne paye pas d'impôts comme les trucs du GAFA tout ça, mais là tout d'un coup c'est eux qui en réclament au pays. À tous les pays, demande de leur payer des impôts. Et donc, c'est pour ça que le président du pays de loup, qui s'appelle Hannibal Chanchou, qui est un type asiatique, lui confie ça et elle résout ce problème à sa manière.
Il y a des moments poétiques aussi, parce qu'à un moment, le président Hannibal Chanchou, là, il fait des choses.
Vous ne respectez absolument pas l'œuvre. Comment vous dites le président ?
Hannibal Chanchou.
Voilà, d'accord.
Chanchou.
Bon, enfin bref, le héros, le président dans votre livre, il fait des cadeaux à la maman de la petite fille. Elle est émue. Pour une fois, elle souhaite quelque chose de gentil. Elle souhaite qu'il soit couvert de roses. Et vous dites, les fleurs par-dessus lui, le piquent, le griffant, l'écorchant au passage, engloutit le chef de l'État, se lève, se débat à l'intérieur d'un orage de pistils et tourbillon d'épines.
Oui, parce que quand elle dit, je veux qu'il soit couvert de roses... Eh ben, il se retrouve couvert de roses, c'est-à-dire qu'il sort des roses partout dans son bureau et tout le bureau est rempli de roses du sol au plafond et voilà, c'est les genres de conneries que souhaite
Lou. Il y a une morale aussi, je suis là.
Pardon, ouais.
Il y a une morale aussi, c'est qu'il faut toujours se méfier de ce que l'on souhaite, c'est un peu la légende de Midas qui voulait que tout ce qui touche se transforme en or et que toute sa famille se transforme.
Exactement, et d'ailleurs ce roman, j'aimerais bien que ça soit considéré comme un conte et tout.
Un conte philosophique, dès le conte de Voltaire.
Mais voilà, parce qu'au bout d'un moment, Lou se demande si c'est si bien que ça de souhaiter du mal aux gens. Quoi. Et je raconte pas la fin, mais à la fin, on lui fait à peu près le pire qu'on puisse lui faire et elle hésite.
Moi, je trouve que vous avez une tête d'une autre époque, Jean Telet.
Ah ouais.
Il était en train d'expliquer quelque chose de très spirituel.
Ça sort de nulle part.
Futuriste ou passé?
Non, passé.
Ah ouais. Ah bah.
Ouais. Vous avez une tête de tableau, on a dû vous le dire.
Tu sais parler aux hommes.
Non, mais c'est vrai, vous auriez pu vivre à d'autres époques. En plus, vous êtes plongé dans d'autres époques.
Oui, oui, oui.
Vous êtes fasciné par le Moyen-Âge.
Oui. Puis j'aime bien, moi, quitter le réel. Je ne le trouve pas formidable, le réel.
Vous avez beaucoup d'imagination, quand même.
Bah ouais, bah ouais.
C'est très... Anne évoquait Boris Vian tout à l'heure, vous lui appartenez un petit peu. Enfin,
ah oui, mais moi j'ai
une descendance quand même.
J'adore. Et L'écume des jours, oui, ça a été pour moi un livre incroyable. Ça a été vraiment un livre incroyable. C'était plus qu'un livre, ça a été comme une porte qui s'ouvrait. Je me disais, quand j'ai lu ça à 15 ans, j'ai dit, donc on peut faire
c'est
ça.
Possible, ouais.
On peut être libre comme ça. C'est un livre absolument extraordinaire.
Je vous présente Ben H, c'est pas Boris Vian.
Il a pas l'air sympa.
Ah si, il est très sympa.
Ah, si, hein. Il ne porte pas sur son visage.
Mais non, il est impressionné par vous. Vous savez ce qu'il m'a dit avant que vous arriviez, que vous étiez son écrivain
c'est
préféré.
C'est vrai, il a dit ça avant
c'est
vous arriviez.
Vraiment gentil.
Mais c'est parce qu'il a de l'acné, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut voir plus loin que...
Donc on règle des comptes.
Ben s'arrête aujourd'hui.
Et il a 30 ans malgré... Vous voyez, il fait 22-23.
C'est vrai, il a les cheveux gras, c'est pour
j'ai
ça.
J'ai une tête d'une autre époque.
Comme quoi, non. On critique beaucoup la chirurgie esthétique, mais c'est plutôt au point.
C'est plutôt pas mal. Jean Telet. Je le reconnais pitoyablement. Je vous connaissais très mal il y a encore quelques jours. Et pour tout vous dire, quand j'ai avoué publiquement dans l'équipe ma relative méconnaissance de votre personne, tout le monde m'a regardé avec les yeux d'une femme frustrée devant un homme impuissant. Un doux mélange de pitié, de condescendance et de « tu sais pas ce que tu rates ». Et pour cause, Jean Telet, non, je ne savais pas ce que je ratais. J'ai tenté de rattraper mon retard en très peu de temps et j'en suis arrivé à deux conclusions que je vous livre ce midi. Premièrement, vous êtes absolument génial. Deuxièmement, on se ressemble beaucoup. Oui, on se ressemble sur plein de points. On a exactement le même style, par exemple. Hein, vous, lorsque vous écrivez, vous alternez la légèreté et le violent, la légèreté et le violent. Moi, c'est pareil, quand je fais l'amour, des caresses et bim, une fessée. Des caresses et bim, une fessée. Vous dites que vous écrivez les livres que vous aimeriez lire sans rien mettre de vous. Moi, c'est pareil, je sors avec les filles avec qui j'ai envie de coucher sans rien mettre de moi. Enfin, rarement le premier soir. Et puis, on pense pareil de Madame Bovary. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais un livre que vous avez trouvé, je vous cite... Casse-burne au possible.
Ah ouais.
Ouais, merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas et ce que tous les étudiants de France pensent tout bas. Madame Bovary était à mon sens plus soporifique qu'un discours d'Edouard Philippe, c'est vous dire. Et puis à l'origine, vous étiez donc dessinateur de BD et vous avez tout arrêté sur un coup de tête après que l'on vous ait remis un prix.
Ouais,
comme si un acteur arrêtait sa carrière après un César d'honneur, ou si moi je démissionnais après que Anne Roumanoff m'ait félicité en me sautant dans les bras, je ne suis pas prêt de partir. Pour tout vous dire, et alors que je ne suis qu'au début de votre œuvre, j'ai l'impression que lire Jean Telet, c'est un peu comme tomber amoureux. Vous pouvez écrire n'importe quoi, on a toujours un petit sourire débile aux lèvres. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'ai aimé votre style à ce point-là, et pour moi, hein, le mec qui n'aime pas lire, et vous m'avez donné la réponse dans une interview, je vous cite, vous dites « La plupart des écrivains sont beaucoup plus intellectuels, beaucoup plus axés sur la psychologie de leurs personnages. Ils ont bien le droit, mais moi, la psychologie, ça me casse les couilles, j'en ai rien à foutre. »
Absolument.
Et voilà. C'est ça que j'aime chez vous, Jean Telet. Vous en avez rien à foutre et vous vivez tout ça comme une incroyable chance que vous continuez de vivre. Grosso modo, pour faire court, vous êtes devenu écrivain parce que quelqu'un a jugé que vous l'étiez et vous a donné 50 000 francs pour l'être. Soit environ 7 500 € pour les gens d'aujourd'hui et environ 5 millions d'anciens francs pour certaines personnes du public. Et depuis, vous vivez tout ça comme une chance, succès après succès. C'est ça, Jean Telet, un excellent dessinateur qui arrête tout comme ça, un excellent romancier qui commence tout comme ça. Il déteste les religions mais ne fait qu'en parler, il est amoureux de la poésie mais aime abuser de la vulgarité, un passionné d'histoire mais qui préfère arranger la sienne et comme le résume le regretté Georges Wolinski, c'est un homme charmant qui écrit des atrocités. Alors cher Jean Telet, merci d'avance pour toutes les futures atrocités qu'il me reste à lire.
C'est vraiment gentil, merci beaucoup.
Vous dites que vous êtes très méticuleux.
Oui.
Ça fait flipper même quand. Je suis très organisé, maniaque, même méticuleux à l'extrême. J'écris d'abord à la main, au crayon à papier, toujours un critérium 0,5 mm 3H à la pointe dure.
Oula.
Mes deux bureaux à Paris en Bretagne sont rangés de façon identique, avec l'ordinateur, l'imprimante disposés exactement à la même place, sans rien d'autre dessus.
Ouais. Et je pousse même le truc quand j'écris au crayon à papier sur une feuille. Vous savez, les feuilles de papier, si vous passez la main sur le côté, quand c'est massicoté, il y a un petit bord qui remonte. Et donc, je fais toujours attention pour que quand ma main glisse, que ça n'accroche pas le bord de la feuille. Vous voyez jusqu'où ça va. Hein.
Par contre, vous n'avez qu'une seule bibliothèque chez vous. Et quand vous achetez un livre, vous le remplacez par un autre.
Exactement. J'ai décidé que j'en aurais jamais deux. Et donc, quand il y a quand même un livre que je veux ranger dans la bibliothèque, ben j'en sors un autre et je le mets sur des sièges d'abribus, des trucs comme ça. J'appelle ça les bibliothèques sauvages.
Pour le donner à quelqu'un.
Et puis que les gens qui passent, et ben ils disent « Oh tiens, je vais prendre le livre ». Et voilà, je trouve que ça doit circuler comme ça, les livres.
Vous n'avez pas de culte du livre, de l'objet
du
livre.
Du tout, je m'en fous. C'est du papier. Ce qui est important, c'est ce que ça raconte, un livre. Autrement, moi, le papier...
Et dans ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu raconter, Jean Tellet ?
Et je ne sais pas trop. Je voulais raconter une jolie histoire, et comme un conte, mais moi, je ne comprends pas bien ce que j'écris. Je commence à le comprendre quand les gens m'en parlent. Et c'est bizarre. Je ne sais jamais quoi penser de mes livres quand ils viennent de sortir.
Ça sort, en fait, d'une manière intuitive. En
oui,
fait.
Oui voilà. Ça me vient. Ça me vient comme ça.
C'est quand même incroyable que votre premier livre, c'est pas vous qui avez demandé à écrire, c'est une éditrice qui vous a...
Oui, j'étais à Canal et puis une éditrice un jour m'a appelé en me disant « Ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. » Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et c'est toujours votre éditrice ?
Elle est décédée, mais je n'ai pas changé d'éditeur. Je suis toujours chez Julliard depuis le premier livre.
Elle a eu du nez, cette femme.
Ah ouais, elle était formidable. Elisabeth Gill, elle s'appelait. Une femme absolument adorable.
Alors, la première question que vous avez posée, c'est il faut combien de pages pour faire un livre ?
Exactement. écrit à la main, je lui ai dit, écrit à la main un livre. C'est combien de pages ? Elle me dit, ça dépend si vous écrivez gros, petit. Je lui dis, je dois écrire moyen. Elle me dit, 200 pages. 200 pages, tout d'un coup, ça me rappelait l'école quand je faisais une connerie qu'il y avait 100 lignes à faire et tout. Je fais, 200 pages et tout. Et puis, pendant qu'elle me parlait de tout ça, je voyais qu'elle avait préparé le contrat et surtout, je voyais le chèque. Et je me disais, putain, 50 000 francs, elle donne à l'époque. Et c'était un moment où j'avais besoin d'argent et j'ai accepté pour le chèque. Et quand je suis arrivé, j'ai repris le métro pour rentrer chez moi. Je me suis dit, mais je suis con, maintenant il faut que j'écrive un livre. Et j'ai failli faire demi-tour et lui rendre le contrat et le chèque en disant tout ça est un malentendu, n'en parlons plus. Mais comme j'avais vraiment besoin de l'argent, je suis parti avec et puis j'ai écrit un livre. Et bon sang, ça m'a plu.
Je vous présente Christine Mérou qui est en extase devant vous.
Mais je la connais, je l'ai déjà vue.
Mais oui, on a fait une émission ensemble. Oh, vous vous rappelez de moi ?
Ben ouais.
Faut pas lui dire ça parce qu'elle va plus se sentir.
Parce que les gens se rappellent pas de moi. Ça me touche beaucoup. Alors, donc je suis le moment ludique de l'émission. Vous êtes un artiste un petit peu touche à tout. Du coup, je vous ai préparé une petite série de questions à choix multiples, d'accord. Donc les réponses sont des. Arrête de te foutre de ma gueule. Alors, pardon, je m'adresse à Ben H. Les réponses sont des œuvres de la littérature, de la chanson ou du cinéma, mais vous pouvez aussi inventer votre propre réponse. Je vous présente l'interview. C'est le bordel. Alors. Que voudriez-vous que Dieu vous dise à votre arrivée au paradis ? Bienvenue chez les ch'tis, merci pour ce moment, où tout est fini entre nous.
Mais la question est impossible puisqu'il n'existe pas.
C'est comme le Père Noël, il y a des gens qui ne sont pas
au courant. Si, il fallait un jour que vous l'appreniez, ça n'existe pas.
Alors, quel lien entretenez-vous avec la BD aujourd'hui ? Les grandes espérances, le mépris ou je t'aime moi non plus ?
Les grandes espérances, je trouve que c'est vraiment bien la bande dessinée. Et puis les jeunes dessinateurs actuels, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent.
Qu'est-ce que vous conseilleriez comme album ? Jean Tellet.
Alors là, question piège.
Hergé ?
Non, il me gonfle, Hergé. Ouais. Oh là là, Tintin, il m'emmerde. Ouais. Je vais pas trop. Si, comme beaucoup de gens, Riyad Satouf, par exemple, c'est un type qui a beaucoup de talent, mais je connais pas tous leurs noms, mais il y a plein de trucs très très bien qui se font en ce moment en bande dessinée.
Et vous, reprendre la bande dessinée, vous ne voulez plus ?
Non, c'est fini, ouais.
C'est comme Inès, vous voulez plus la revoir jamais ?
Non, et puis il y a y a beaucoup de dessinateurs qui adaptent mes livres en bande dessinée.
Il faut travailler à votre place, quoi.
6 ou 7, et puis il y en a 5 qui sont en train de se faire en ce moment. Et c'est un régal de regarder ce que font ces jeunes dessinateurs. Et voilà, c'était dans une autre vie.
D'accord. Alors, la question que vous vous posez le plus souvent, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ah bah non, donc je raye.
Ouais.
Où sont les femmes ? Ou les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Roman de Philippe K. Dick.
Oh, bah, je vais choisir la troisième.
Vous aimez Philippe K. Dick ?
Ouais.
Ça, j'étais sûre. Pour beaucoup de gens, vous êtes E.T. l'extraterrestre, le misanthrope ou Jolo Taxi parce que vous nous transportez. Moi, il y a eu un travail au niveau de l'humour également quiz.
Jolo Taxi, c'est bien ça, ouais.
Ouais. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux gens ? Chantons sous la pluie, avec John Kelly. C'est aussi un conseil qu'on a beaucoup donné à François Hollande. Aimons-nous vivants, François Valéry, ou mangez-le si vous le voulez. Roman de vous.
Le truc de François Valéry, il a dit...
Oui. Bon,
c'est pas bête. Ouais.
Avant la main, nous trouvons du...
Et donc Jérémy Lorquet est en train de chanter la suite de la chanson, c'est pas un karaoké, d'accord ?
On est contaminé maintenant, on a ça dans la tête.
Votre vie amoureuse en ce moment, c'est plutôt, comme d'habitude, la grande évasion, à la recherche du temps perdu ou la vie en rose ?
Ou la vie en rose ? La vie en rose.
On aime bien poser des questions aux invités sur leur vie amoureuse. Vous êtes amoureux, Gentelet ? Vous êtes amoureux, Gentelet ?
Ouais.
Depuis combien de temps ?
Depuis un moment.
Si elle nous écoute, vous avez envie de lui dire quoi ?
Mais je lui dirai à l'oreille.
Gentelet, qu'est-ce qui vous manque dans la vie ? Quelque chose de Tennessee ? Toi plus moi plus tous ceux qui le veulent ? Ou une grande vadrouille ?
Quelque chose de Tennessee, parce que j'ai jamais lu Tennessee Williams.
Vous n'avez jamais écouté Johnny Hallyday ?
Si. Mais ouais.
Qu'avez-vous envie de dire après avoir participé à cette émission ? Bonjour tristesse. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Ou Love Actually ?
Ou quoi ?
Love Actually.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Merci.
Ça fait plaisir.
Elle est belge, humoriste, danseuse, réalisatrice et magnifique. Elle a triomphé avec son One Woman Show à la carte au cinéma, sur internet, à la télé. C8 lui consacre toute une soirée après-demain avec son spectacle C'est moi la plus belge. Suivi d'un documentaire, on découvre celle qui a été la première femme humoriste à monter sur la scène de l'Opéra d'Alger. Faites du bruit pour Nawel Madani.
Merci.
Bonjour Nawel Madani.
Comment ça va ?
Très bien. Racontez-nous ce que c'est que cette soirée, donc le 13 mars à 21h sur C8.
Oui, ça va être la première fois qu'on diffuse mon spectacle en télé, mais c'est surtout la découverte de mon pays, l'Algérie, à travers mon regard. Je voulais rendre hommage au pays qui a fait naître mes parents, celui qui m'a vu grandir été après été, et surtout sur ce challenge d'être la première femme humoriste d'origine algérienne, tout simplement, avant même d'attaquer l'Opéra d'Alger.
Et comment ça s'est passé alors ce spectacle à l'Opéra d'Alger ? Vous deviez être très émue, non ?
J'étais très émue, mais surtout j'appréhendais parce que sur place, beaucoup me posaient la question, que ce soit ici ou là-bas, est-ce que j'allais avoir la même liberté de ton qu'en Europe ? Du coup, au début, moi, je me disais, tranquille, les gens ont quand même payé pour me voir, ils sont un petit peu au courant
de
mon style. Hein. La pression a commencé à monter tout doucement. Puis je me suis rendu compte aussi de pas mal de choses, des problèmes techniques, et puis le manque d'infrastructures. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, on travaille encore de manière artisanale, on ne peut pas acheter de billets via les réseaux sociaux ou par Internet, où il n'y a pas de lien. On achète nos billets dans les tabacs, dans les restaurants. Du coup, les gens font 7 à 8 heures de route pour acheter leurs billets puis retourner. Et donc, les 8000 spectateurs, il y en avait beaucoup qui dormaient sur le parking. Incroyable. Parce qu'ils venaient de Annaba, de Constantine, ils ont fait 5 heures de route. Du coup, quand on sait que 8000
spectateurs ?
Oui, j'ai fait 8000 en totalité.
Ah oui, mais chaque jour, il n'y a pas 8000 à la place.
Non. Mais c'était par je faisais des fois deux représentations. Donc, une à 16h et une à 20h. Du coup, on avait des personnes qui venaient, par exemple, il y en avait toute une famille qui est venue de Belabès, qui a fait presque 5 heures de route et qui a dormi sur le parking. Du coup, on a envie de dire, ouais, on a intérêt à les faire rire parce que...
Et du coup, est-ce que vous avez modifié des petites choses ou pas ?
Alors, pas du tout.
Ouais, c'est ça.
J'ai fait une chauffe et j'ai pu voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Et j'y suis allée.
C'est bien, et les réactions étaient pareilles ? Les gens riaient au même endroit ou...
Au même endroit, voire ils en demandaient plus, en fait. Donc, je me suis très lâchée. finalement, je n'ai pas voulu tout montrer parce que je me suis dit, vu comme ça de l'extérieur, ils m'ont donné une force incroyable. J'ai quand même débuté avec une standing ovation et des gens en larmes, en fait. Et c'est ça qui m'a troublée. Et je me suis dit, mais pourquoi ils pleurent? Il y avait des femmes en pleurs. Et il y a des
parce
dames.
Que c'est peut-être justement de voir une femme qui s'exprime exactement. Avec force.
Et elles m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit une femme qui parle de nous. Et c'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, je t'ai invité, tu devais venir, mais tu jouais en même temps.
Ouais.
Parce qu'ils t'aiment beaucoup là-bas. En c'est Algérie. Incroyable comment t'es suivie en Algérie.
Oh là là, bon ça va.
Ah oui, on t'appelle là-bas Anchnounanov.
C'est vrai.
Mais je te jure, parce qu'ils regardent beaucoup la télé française. Et par exemple, Olivier de Benoît, il ne pensait pas du tout être connu en Algérie. Et il a cartonné là-bas. Et Anne Roumanoff revient souvent quand je teste le public.
Bon,
donc t'as attendu, il y a de l'oseille pour toi là-bas. Mais par contre, c'est du dinar. Hein. Donc,
Alors, il y a eu ce film qui est sorti l'année dernière, Nahom Lavani, qui a très bien marché.
Ouais.
Vous avez fait combien d'entrées?
Plus de 700 000 pour un petit film qui n'a pas eu une forte promo, parce que j'ai pas eu, par exemple, de Colin Morris. Je savais même pas ce que c'était, d'ailleurs. On me dit, ah, t'as des Colin Morris? Non, c'est quoi? Ah, mais, ah oui, j'en ai eu pour mon spectacle, mais pas pour mon film. Oui, comme ça, il y a eu un petit budget. Il y avait pratiquement que des acteurs amateurs, même si François Berléand a accepté d'être dans le film. Mais c'était pas le rôle principal. Le principal était mon père, qui a été interprété par un chauffeur Uber.
Extraordinaire.
Voilà.
Et du comment coup, il s'appelle, cet homme? Il jouait...
Mimoun, depuis
la... choisi parce que on a les larmes aux yeux à la fin du film avec cette
merci.
Scène.
Merci. Ouais, maintenant il passe pas mal de casting, je suis très contente.
Ah oui, il est devenu comédien.
Il a garé sa voiture, il a plus jamais récupéré. Donc il est acteur, ouais.
C'est vrai.
Mais il a un agent.
Il avait jamais été acteur.
Maintenant quand
avant.
Je l'appelle, il me passe son assistante. C'est ça qui est bien avec les Arabes.
Alors vous êtes issu d'une famille nombreuse de 4 enfants et vous dites j'ai vu mes parents trimer, assumer 2 jobs chacun nuit et jour sans partir en vacances pendant 17 ans.
Exactement.
J'ai connu ma mère avec le même imperméable durant toute sa vie. C'était mes sœurs qui s'occupaient de nous en rentrant de l'école. On ne voyait jamais nos parents. C'est quelque chose qui m'a terriblement manqué. Depuis toute petite, quand on me demandait ce que je rêvais de faire plus tard, je répondais faire kiffer mes parents.
Exactement. Et j'essaie de rattraper le temps perdu maintenant.
Et alors, vous leur donnez de l'argent ?
Je ne leur donne pas de l'argent. Mais par contre, j'ai emmené ma mère à Los Angeles. Elle se baladait à Hollywood en claquette fila et Jill Labelle. J'ai ma mère chez moi à la maison. On voyage énormément. J'essaye de rattraper le temps qu'on n'a pas passé ensemble. C'est quand on voit ses parents vraiment, mes parents vieillissent mal dû au travail. Je vois que je pourrais pas rattraper certaines choses, mais il me reste un laps de temps et j'ai vraiment envie de profiter d'eux un maximum. Ils nous ont tellement donné. Mes parents ont vraiment quitté l'Algérie. Ils ont une immigration qui n'est pas comme les autres. Mes parents, mes grands-parents ont refusé qu'ils se marient. Donc ils ont quitté l'Algérie par amour.
Alors que votre père était joueur de foot.
Exactement.
Et ça marchait, bien,
ça
pour
marchait
lui.
Bien pour lui. Exactement. Il a tout quitté. Il est arrivé ici. Il est devenu chauffeur de taxi. Puis il travaillait dans un bar aussi. Et ma mère était infirmière de nuit. Et la journée, elle faisait des soins à domicile. Donc il dormait très peu. Et donc on voyait toujours nos parents en train, très fatigués. Et quand on essayait de regarder un film devant eux, on leur disait « Ouais, papa, mais... tu dors pas, hein, tu le regardes jusqu'au bout. » Et ça, c'est un souvenir que j'ai de moi. Je dis, maintenant, je vais au cinéma et je peux te dire qu'il regarde les films jusqu'au bout.
Jérémy Arcal, des choses à vous dire, Nahom Lavani.
Oui, Nahom, j'ai vu votre spectacle et votre documentaire. Alors, vous êtes drôle, vous êtes touchante. Et chez vous, il y a vraiment un truc qui est fédérateur. On peut se reconnaître dans votre parcours, dans vos épreuves. Moi aussi, par exemple, j'avais envie que mon père soit fier de moi. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Alors, vous dites que quand vous lui avez annoncé votre envie d'être artiste, il n'a pas vraiment compris votre choix de vie. Ça a été un peu compliqué. Alors, moi, j'ai un père boxeur et italien. Quand je lui ai annoncé que j'étais plus du genre à me marier avec Ben H qu'avec Christine Béroux, il est tombé dans les pommes. Quand il s'est réveillé, je lui tenais la main. Il a dit maquette ou EPD. J'ai dit oui, il est retombé direct. Alors justement, à propos de votre père, il y a une anecdote très émouvante. On apprend que chaque soir où vous avez joué dans la salle, il y avait toujours un siège vide pour lui. Et je vous remercie, Nahom. Comme moi, il y a souvent une cinquantaine de sièges vides. Maintenant qu'il s'est réservé pour ma famille, c'est une bonne excuse. Je voulais aussi vous remercier d'avoir rétabli la justice. Vous expliquer à propos des relations amoureuses qu'on ne naît pas psychopathe, on devient psychopathe. Qu'un jour, il y a un mec qui réveille ça en nous. Et merci parce que je me sens moins seul. Ah ben mon ex, j'en étais à compter les nuits. Quand on s'embrouillait, je lui disais, mais t'es un grand malade, on a dormi 700 nuits ensemble. Ah, j'étais flippant. Et puis un jour, je sais pas pourquoi,
pourquoi, il y a Diams et Vita qui se sont emparés de mon corps. En pleine dispute, je suis parti en rap. En mode que je la raye ta BM, que je la crève ta BM. Si tu savais comme j'ai la haine. Et alors vous expliquez un truc, mais tellement vrai, vous dites que c'est horrible quand on se dispute avec la personne qu'on aime, qu'on résume toute la dispute par SMS, Anne, ça va te parler, qu'on met des heures à relire le texto qui fait 8 pages pour essayer de faire avancer l'histoire, qu'on attend cette réponse comme le Graal et qu'à tout ça, l'autre nous répond « Ok ». Ah, il y a de quoi péter un câble, ça devrait être puni par la loi, un truc pareil. Hein. Et en même temps, il peut y avoir pire. Moi, j'ai déjà eu en réponse, c'est qui ?
Ah oui, ok.
Mais t'es malade, on a dormi 700 nuits ensemble. Alors merci également Nawel de m'avoir donné envie de découvrir l'Algérie. Franchement, l'Office du Tourisme, ils peuvent vous remercier parce que les images, elles sont tellement belles. On n'a qu'une envie, c'est de découvrir Alger et Oran. Alors évidemment, on en apprend un peu plus sur vous. Dans ce documentaire, on le savait, mais vous êtes une battante. Donc on voit même organiser un marathon. Et d'ailleurs, j'ai lu que le sport tenait une place importante. Vous faites de la boxe, du cardio, ça vous donne la patate pour le spectacle. Alors j'ai voulu m'inspirer de vous, j'ai pris des cours de boxe. Quand le gars est arrivé, il a crié « T'es un warrior ! T'es un warrior !» Et moi, je suis pas un warrior, j'écoute Céline Dion. Alors il m'a fait bosser les cuisses, j'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours. Et ça, c'était que l'échauffement. On arrive sur le ring, je lui explique que la violence a jamais été mon truc. Moi, par exemple, si quelqu'un est agressif dans la rue, j'ai ma petite technique, je tousse, mais en mode maladie contagieuse. Ça donne à peu près ça.
Ouais, frérot.
Bref, d'habitude ça marche à tous les coups. Je me suis fait virer, du coup merci Nawel. En tout cas, votre premier long métrage s'appelait C'est tout pour moi, mais je crois qu'on va entendre parler de vous encore longtemps. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.
Merci.